France Musique. France Musique, vous rendez-vous à la mi-journée, 12h30, sous la couverture par Philippe Venturini, avec Yves Balmer, Thomas Lacote, Christopher Brent Murray pour le modèle et l'invention, Olivier Messiaen et la technique de l'emprunt. 13h, Cinétempo par Thierry Jousse, aujourd'hui Conte Fantastique. 14h, Génération Jeunes Interprètes par Gaël Le Gallic, concert donné à la Maison de la Radio. Le trio Arma jouera Félix Mendelssohn, Virginie Vérez, mezzo-soprano et Ismaël Marguin, piano, joueront Schumann, Poulenc, Offenbach et Courtevaille. Et l'Orchestre des Jeunes d'Île-de-France, dirigé par Christophe Dillis, interprétera John Blau et Purcell. 23h30, Création mondiale intégrale par Anne Montaron. L'Orca Fragment pour 5 instruments de Michel Agnès Magalhaes, interprété par l'ensemble L'Itinéraire que dirige Léo Margue. Pour l'instant, nous retrouvons Benoît Dutertre.
Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, j'accueille le plus populaire des humoristes, Monsieur Jean-Marie Bigard, qui ne dédaigne pas dans ses spectacles de pousser la chansonnette. Il a même écrit quelques refrains à succès. Oreilles sensibles, s'abstenir, mais bienvenue aux esprits rabelaisiens, en compagnie de l'auteur de la valise RTL, du grand moment de solitude ou encore d'un hommage à Robert Lamoureux. En fin d'émission, place à la musique légère avec Serge Elhaïc et quelques succès français à la mode américaine. Voilà pour le menu, mais pour ceux qui se lèvent tard, il est temps de prendre le petit déjeuner.
Lorsque je m'éveille, il fait déjà grand jour. Je vois le soleil qui danse dans la cour. Je m'étire un peu, j'ouvre les yeux et puis je me dis tant mieux, quel beau temps aujourd'hui. J'habite au premier chaque matin sur mon palier. Le garçon laitier dépose un panier. Et dans ce panier, il met les journaux, le courrier. De petits pains frais et mon pot de lait. Encore un crime, la guerre en Chine, 300 victimes, oh, et Mussolini n'est pas gentil. Oui, tout ça va mal, c'est effrayant, c'est infernal, tout est anormal, je plie mon journal pour me consoler, pour oublier que tout est laid. Je vais boire mon petit pot de lait. Je connais depuis environ 18 mois un monsieur Dupuis qui s'intéresse à moi. Ça doit être lui qui paye mon loyer, les fleurs, la modiste et le garçon laitier. Vendredi dernier sur mon palier, dans le panier, avec le courrier, je trouve un papier. Et sur ce papier, quelques mots étaient gribouillés. Les yeux tout mouillés, j'ai compris, ça y est. Hélas, le traître, mon roi, mon maître, m'envoyait paître. Mon Dupuis me quitte pour la vie. Je me trouve mal, je pousse des cris d'animal. J'appelle au secours, la concierge accourt. Pour nous consoler, pour oublier que tout est laid, nous avons bu le petit pot de lait. Voulant supprimer tous les frais superflus, j'ai dit au laitier, ne vous dérangez plus. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, monsieur. Il m'a dit tant pis, en rougissant un peu. Tendre et régulier, chaque matin sur mon palier, le garçon laitier pose son panier. Ce garçon me plaît, il est jeune, il a du bon lait. Pour tout simplifier, on s'est marié. Oh, nuit d'extase, amour sans phrase, qui nous embrase. Amour, tendresse, ivresse et caresse. Mais au petit jour, le laitier me dit, mon amour, je dois m'en aller pour faire ma tournée, pour me consoler, pour oublier qu'il m'affolait. Je vais boire mon petit pot de lait.
Ah, ce qu'elle est bien, Mireille, sur les paroles de Jean Nohain. Et quand elle s'accompagne elle-même sur un piano Pleyel, comme c'était le cas ici en 1934, Tout ça pour vous dire que si vous voulez boire du bon lait, eh bien venez samedi prochain au Salon de l'Agriculture, au pavillon numéro 1, au stand de France Musique, où j'aurai le plaisir de vous accueillir pour une émission en direct et en public avec l'accordéoniste Daniel Collin, avec Dany Briand qui nous parlera de chansons populaires, et puis avec Michel Loriot, Vigneron et Perico Legas. Tout ça pour parler des rapports entre agriculture et musique, et vous verrez qu'ils seront très nombreux à être étudiés lors du prochain Étonnez-moi Benoît, samedi prochain à 11h en direct au Salon de l'Agriculture. Et voilà, c'était justement l'entrée des paysans dans le ballet Javotte de Saint-Saëns. Encore un petit clin d'œil au Salon de l'Agriculture, notre rendez-vous de la semaine prochaine. C'était Javotte, ce ballet par l'orchestre Queensland sous la direction d'Andrew Mogrelia.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons rendez-vous sans plus attendre avec mon invité. Et vous le savez, l'humour en général, l'humour musical en particulier, c'est un des fils conducteurs de cette émission, à côté de l'opérette ou des chansons d'autrefois. J'ai reçu beaucoup d'humoristes et je n'ai pas résisté à la possibilité, à l'envie d'inviter le plus célèbre, le plus populaire peut-être d'entre eux, parce qu'il adore la chanson, mais qu'il a aussi bien d'autres curiosités que vous allez découvrir au fil de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Bigard.
Il était né près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman, qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Et on l'appelait la filoche à la bastoche. Il ne faisait pas sa société du génie de la liberté. Il n'était pas républicain, il était l'ami du rouquin. Le petit homme à la méloche, à la bastoche. À cette époque-là, c'était le bon temps. La méloche avait 18 ans. Et la filoche était rupin. Il allait des fois en sapin. Il avait du jonc dans sa poche, à la bastoche. Mais ça peut pas durer toujours. Après la saison des amours, c'est la mistouf et ben souvent, faut se les caler avec du vent. Filer la comète et la cloche à la bastoche. Un soir qu'il avait pas mangé, qui rôdait comme un enragé, il a pour barboter le quibus d'un conducteur des omnibus, crevé la panse et la sacoche à la bastoche. Et sur la bascule à Charlot, il a payé sans dire un mot. À la roquette, un beau matin, il a fait voir à ce pantin comment savait mourir un broche de la bastoche. Il était né près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman, qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Mais on l'appelait la filoche à la bastoche.
Bonjour Jean-Marie Bigard.
Eh bonjour, quel beau cadeau vous me faites, Benoît.
Mais vous le faites aux auditeurs parce que vous le faites très bien, Bruant, là, c'est dans le film. Alors il faut préciser de Planchon, qui s'appelle Toulouse-Lautrec, où vous jouiez le rôle de Bruant et vous chantiez aussi le rôle de Bruant.
Bien sûr, et c'est un cadeau magnifique de Roger Planchon qui est venu me voir en spectacle et qui disait, mais à qui voulait l'entendre le jour où vous verrez le lyrisme qu'il y a chez Jean-Marie Bigard, il deviendra un monstre du cinéma, disait-il. Et j'étais très très ému à chaque fois, je le voyais très impressionné, ce ténor quand même du théâtre.
Ça veut dire que c'était un habitué
théâtre,
de vos spectacles.
Oui. Ah oui, et puis il a insisté, je lui ai dit non Roger, je vais pas faire ça, je vais pas chanter, je chante pas. J'y ai dit non trois fois, il est revenu trois fois. Il m'a dit, écoute, je cherchais un autre comédien, mais c'est toi. Depuis le début, je sais que c'est toi.
Donc c'est lui qui avait pensé précisément au rôle de Bruant pour vous.
Oui, hein, absolument. Ouais. Et puis, en plus, à une période qui me convient parfaitement, il a remis quand même en route, je le vois sur la pochette, là, les machines pour faire les affiches, les grandes affiches. Ouais. C'est-à-dire, on faisait les affiches en une seule fois, bien sûr. Les machines étaient des espèces de locomotives. Ouais. Et des trucs donc qu'on a fait remarcher
les époques du
avec
Moulin Rouge,
des gens de l'époque du Moulin Rouge, donc début 1900. Ouais. Et qu'on a fait remarcher avec des techniciens qui étaient à la retraite maintenant, mais qui avait travaillé sur ce type de machine, avec des couleurs somptueuses, la goulue. Et puis surtout, Roger Planchon, qui ne faisait rien au hasard, il disait toutes les cours d'Europe venaient s'encanailler, venaient voir la goulue danser. Le prince de Galles venait voir danser la goulue. On venait voir de toute l'Europe le pétomane.
Et Bruant, vous aimiez ces chansons déjà ou vous les avez un peu travaillées vraiment pour l'occasion et pour ce disque à accompagner le film ?
Il n'avait pas tellement de voix, le pauvre. Il avait une voix un peu aigriarde. Ouais. Il chantait pas toujours très très juste. Un petit peu du nez comme ça, un peu, tu vois. Donc, mais ses chansons étaient très populaires. Il venait quand même un petit peu au secours de la victoire, c'est-à-dire il gueulait après la noblesse et les bourgeois alors que les choses étaient faites quand même. Il venait enfoncer des portes qui étaient très très ouvertes, bon pour l'individu, mais sinon il disait si c'est pas Lautrec qui fait mon affiche, je ne chanterai pas au Chat Noir, par exemple. Il mettait des conditions et il a vraiment aidé Toulouse-Lautrec à essayer de populariser au maximum sa peinture.
Alors en tout cas, voilà, une chanson interprétée par vous, Jean-Marie Bigard, vous en avez fait d'autres, parce que vous dites que vous chantiez pas quand Planchon est venu vous voir. En fait, la chanson, elle a été quand même relativement présente depuis vos débuts, dans des spectacles, dans des disques, ça revient de temps en temps.
Oui,
c'est pas l'essentiel, mais c'est un fil conducteur quand même.
C'est-à-dire, j'ai fait un album qui s'appelait quand même Plus Jamais Ça, voilà. Et ça s'est vérifié par la suite.
Oui, mais il y a encore des chansons dans les spectacles, néanmoins.
Oui, bien sûr. Oui.
Je me disais d'ailleurs, au fond, Jean-Marie Bigard, bon, on vous voit plutôt comme un homme de ce qu'on appelle un one-man show en bon français, mais vous pourriez...
Ah oui, dans la langue de Molière, disons, je préfère qu'on dise spectacle seul en scène.
Et vous avez raison.
Qui mériterait une vraie catégorie, par exemple au César.
Mais le musical au sens large, c'est pas quelque chose qui vous a tenté, justement,
oui,
mélange des genres, la chanson, la danse, les animations de toutes sortes qu'on peut faire sur une scène.
Bien sûr, j'avais beaucoup d'admiration pour Jean-Marie Rivière.
Ah oui, à l'Alcazar.
Par exemple, l'Alcazar. Être un chef de brigade, en fait, autant des gens qui vous servent au milieu des tables que des danseurs et des danseuses, c'est un job formidable.
Vous pourriez le faire, puisque vous faites
ce que
vous
voulez. Ah oui, j'aurais fait volontiers, oui.
Alors, en tout cas, nous, on va raconter votre vie un peu en chanson.
D'accord.
Ce matin, j'étais au pressing, porter du linge, alors j'ai dit à la dame du pressing que mon invité cette semaine, c'était Jean-Marie Bigard. Ouais. Jean-Marie Bigard, c'est un sacré personnage. Elle m'a regardé d'un air grave.
Et elle vous a dit bon courage alors. Hein.
Non, et alors, il y a aussi des amis à moi, dont certains vous connaissent, à qui j'ai dit, alors je vais voir Jean-Marie Bigard, et alors ils m'ont tous dit, tu sais, en fait, c'est un type très fin et très cultivé, mais c'est le en fait qui m'amuse beaucoup.
Oui, hein. c'est genre, je m'amuse à faire ça quand je rentre dans la loge d'un copain que je viens de voir jouer, je lui dis, je sais pas ce qu'ils ont tous, j'ai bien aimé moi.
Bon, on va commencer par le Bigard très fin avec, je crois que vous adorez les chansons de Brassens. Oui.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Georges Brassens en 1956. Georges Brassens, Jean-Marie Bigard, dont vous chantez, vous fredonnez, vous avez fredonné certaines mélodies, même dans vos spectacles. Hein. Oui. Je pense à « Je vous salis ma rue » d'après la prière de Brassens. Donc, vous l'aimez particulièrement.
Moi, je connais tout le répertoire de Georges Brassens absolument par cœur. Et ma femme, qui a 28 ans de moins que moi, que je lui dis « Mais attends, écoute bien, quoi. Écoute bien cette phrase, et puis cette autre phrase, elle, tout d'un coup, elle découvre, elle dit, mais c'est somptueux, elle qui est une littéraire.
Ah oui. Oui, c'est vous absolument êtes tombé magnifique. Dessus à quel âge?
Je me suis fait tout petit devant, devant une poupée avec ma femme aussi, quoi. Mes amis, quand elles l'entendaient me parler, avec moins que rien de respect, Quand tu parles au maître, à l'ogre, il va te tuer. Tu vois? Et puis, il est juste épousé, moi, en fait. Et elle m'a fait des beaux jumeaux qui ont 5 ans maintenant et qui sont de 13 ans.
Et vous vous êtes fait tout petit devant elle. Mais
oui.
Bon, Jean-Marie Bigard, quand vous étiez jeune à Troyes dans l'Aube et dans votre famille, on écoutait des chansons de Brassens? Qu'est-ce qu'on écoutait à la radio, sur le tourne-disque, etc.
On écoutait, en boucle Brassens. C'était tout à fait naturel.
Ah oui.
On se battait pour aller écouter, chanter Maxime Le Forestier. À l'époque, c'était notre Tché. À nous, tu vois.
Parachutiste.
Oui, il m'est arrivé des choses dans ma vie, notamment quand j'ai joué le Bourgeois Gentilhomme, peut-être on en parlera
on
après.
On en parlera mais tout à l'heure. Mais
j'ai un moment, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, n'est pas encore président, et je prends un jour sa défense chez une émission d'Ardisson. Ils sont tous en train de dire « j'exècre Sarkozy », et moi je dis « c'est très fort comme mot, comme verbe ». Exécrer, quoi, c'est qu'est-ce
trop,
qu'il
quoi.
Y a au-dessus, quoi. Quand vous allez tomber sur un vrai méchant, vous allez utiliser quel verbe? Et je prends donc sa défense parce que c'est la curée, quoi. C'est tout le lynchage absolu. Il voit cette émission. Il me dit, vous avez pris ma défense d'une manière formidable. On l'a jamais fait comme ça. Je veux venir vous voir au Bourgeois Gentilhomme. Il vient me voir. Et au Bourgeois Gentilhomme, un triomphe absolu, salué par la Comédie Française, hein, tu vois, et pourtant qui me regarde un peu sous le regard oblique, j'allais dire, comme le dit Brassens dans la chanson « Banc public ». Et il vient me voir, la sécurité, les chiens, renifleurs, tout le truc. Et comme on tombait dans notre propre public, on faisait 1000 personnes tous les soirs, plein à craquer du début janvier au 31 mai, je m'en félicite. Et donc, il vient, et comme je tombe dans mon propre public, dans les restaurants, on est 23 comédiens, on mange dans le hall. J'ai fait venir mon catering de tournée, j'ai un cuisinier merveilleux, il arrive à faire des trucs avec... Enfin bref, il nous fait à manger, on met des tables avec des tréteaux chaque soir, et les 23 comédiens sont invités par moi, et s'ils ont eux-mêmes des invités, ils payent 10 euros... le repas.
Et Sarkozy donc, a joué le jeu.
Ah bien sûr. Et donc on est 80 dans le grand hall du fameux Casino de Paris. Et il dit non, bien sûr, je mange avec vous. Il y a la sécurité, il y a tout ça encore une fois. Et on se retrouve sur les tréteaux. Et en face de lui, le hasard fait que ce jour-là, il y avait Maxime Le Forestier qui vient avec Michel Robin qui avait joué le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie Française et qui m'a tout simplement dit quand je t'ai vu faire, je me suis dit mais j'ai fait donc de la merde, moi, m'a-t-il dit. C'était son compliment à lui. Il se retrouve en face de Sarkozy, et Sarkozy se met à fredonner, quand même, à Maxime Le Forestier. T'avais à peine 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit « rentre dedans tout ce qui bouge ». C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Et je vois... Sarkozy qui chante à Maxime Le Forestier, parachutiste.
Un souvenir de sa période gauchiste.
Incroyable, quoi. Ouais. Non, mais pour dire qu'il avait été élevé, lui aussi, à cette sauce-là, si j'ose dire, quoi. Donc, nous, on écoutait Maxime Le Forestier, quand il venait, il exigeait que le prix ne dépasse pas 10 francs. Et c'était sa mère qui déchirait les tickets. C'était la vraie grande époque.
Ouais.
Et il exigeait qu'il n'y ait aucun flic à ses concerts. Qu'il n'y ait pas de flic présent.
Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça,
alors
c'est
nous,
la fin
nous,
des...
on kiffait ça à mort, hein, tu vois.
Et vous avez fait partie aussi, je crois que c'est à Troyes, d'un groupe qui s'appelait les Chœurs de l'Armée du Rouge.
Oui. Les gros
quoi,
chanteurs à la gueule de bois. Ou les Chœurs de l'Armée du Rouge.
C'était quoi ça alors?
Ben, une chorale, parce qu'il y a un copain évidemment, Gérard Viau, qui m'a fait les musiques du seul et unique album que j'ai
qu'on
fait.
Qu'on va écouter tout à l'heure, bien
et,
sûr.
Et j'ai dit, mais je voudrais faire une chorale, vraiment avec des chœurs et tout, et on l'a fait, et ça a donné un spectacle assez coloré, et qu'on a joué que quelques fois comme ça, sur des remorques à paille, dans des petits villages, ou dans la discothèque dont je m'occupais à l'époque à Troyes, quoi.
Et vous, on passait quoi dans votre discothèque? Bon, des musiques de discothèque, ça va,
oui,
normal. Ouais.
Oui, ouais. Bien sûr.
Et
dans la disco, le début, c'était principalement de ce qu'on appelle la disco, le rythme coïtal de la disco.
Voilà. D'ailleurs, on finira peut-être avec Abba tout à l'heure. pour nous ramener à ces années-là. Bah, on va faire un petit saut maintenant. On va aller de Troyes vers Paris. Vous êtes arrivé un peu tard, d'ailleurs, à 30 ans quasiment.
À 30 ans, sur le tard, vraiment, oui.
Voilà.
Après tout le monde.
Après avoir fait une première carrière
après tout le monde.
Ouais. Voilà. Mais avec une continuité qui, je crois, là, est très marquée chez vous depuis vos plus jeunes années jusqu'à vos premiers grands succès. C'est l'admiration pour un grand humoriste de la génération d'avant. Il se trouve qu'il a aussi fait beaucoup de chansons, alors on va l'écouter tout de suite, monsieur Robert Lamoureux.
Ah, voilà, cadeau. Je vais vous chanter maintenant une petite chanson que j'ai intitulée « Papa, maman, la bonne et moi ». Remarquez, cette chanson-là, j'aurais pu la chanter depuis longtemps déjà, parce que il y a quelque temps déjà, j'avais été voir un directeur d'une maison de une maison qui font des machins, quoi. Et alors là, le directeur m'avait reçu très gentiment, j'avais dit, j'ai une chance. Oh, ben, il m'avait dit, mais sûrement. Il dit, écoutez, il dit, pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais il dit, laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Et effectivement, il m'a rappelé. Entre-temps, moi, j'ai fait mon service militaire, mais on n'était pas à 5 minutes, pas. Alors là, il m'a rappelé et il m'a dit, nous vous attendons cet après-midi sans faute à 3 heures. Alors, pensez, moi, j'ai... Alors là, on a bavardé, tout ça, il m'a reçu très gentiment. Et on a causé, quoi, une dizaine de secondes. Et alors, il m'a dit, écoutez, maintenant, je vais pouvoir faire ça rapidement. Soyez tranquille. C'est... Alors, vous pensez, quand je suis rentré à la maison, moi, je l'ai dit à papa, j'ai dit, ben maintenant... Oh, il me dit, oui, oh, ben, il me dit, si t'as reçu comme ça, maintenant, t'as le pied dedans. Il m'a pas dit dans quoi, mais je... Enfin, maintenant, ça y est, je vais vous chanter « Papa, maman, l'abonnez-moi ». Allez-y, monsieur le... Oui, dites, monsieur l'accompagnateur, vous êtes, je sais, vous êtes bien payé, mais tapez pas trop fort quand même, parce que pour qu'on puisse entendre l'artiste. « Papa, maman, l'abonnez-moi ». Je suis de nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry, et vraiment de s'appeler l'amoureux. Pour un garçon, c'est merveilleux, papa, maman, la bonne et moi. Des gens comme nous, il y en a des tas, on achète à tempérament, papa, moi, la bonne et maman. L'été, on va au Sable d'Olonne, papa, maman, moi et la bonne. Quand on vient, il nous reste 20 francs, papa, moi, la bonne et maman. Il nous reste 20 francs, donc faut pas exagérer quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Père l'amoureux et fonctionnaire, maman et fille d'horticulteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. J'ai mis brevet parce que certificat d'études ça prend trop de place. Non, enfin ça c'est une affaire personnelle. Un grand-oncle et pas petite sœur, mais vraiment de s'appeler l'amoureux. Pour plaire aux dames, on ne fait pas mieux. Papa, maman, la bonne et moi. On a une radio qui ne marche pas, un très vieux piano qui détonne. Papa, maman, moi et la bonne. Samedi, on va au cinéma. Maman, la bonne, moi et papa. Le dimanche, on va chez des parents. Papa, moi, la bonne et maman. Et alors là, c'est agréable parce qu'il y a toute la famille, on est tous là. Alors il y a grand-mère, il y a grand-père, tout ça, on se paye de ses bringues, mon vieux, on boit des verres pleins de plein verre de cidre. La vie n'est pas une chose amère quand on la prend du bon côté. Nous avons tous nos petites misères, mais faut savoir s'en arranger. Faut se débrouiller pour être heureux, même si on se nomme pas l'amoureux. Papa, maman, la bonne et moi, quand on est gêné en fin de mois. On pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Et cette façon de voir prouve qu'en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%, papa, moi, la bonne et maman.
Merci, les amis, merci pour lui. Merci, ton monde, ça a 45 ans. Et là, je peux vous dire que je suis dans ma spécialité. Je peux vous dire qu'on ne fait rien de plus rapide, de plus efficace que ça. Vous avez vu les images, là, hein, il faut suivre le mouvement, hein, t'es obligé de les fabriquer. Il y a un rire toutes les 5 secondes et tout. C'est lui, Robert Lamoureux, l'inventeur de l'ellipse, du gag à tiroir. Enfin, c'est lui qui disait, on roulait, on avait passé la luzerne depuis un moment, on attaquait le blé noir. Hein. Oui, parce que le seigle, on l'avait fait l'an dernier, il n'y avait pas de raison qu'on y retourne, tu vois, c'est génial.
Robert Lamoureux, oui. En 1950, et puis vous-même, donc Jean-Marie Bigard, oui. Dans un extrait d'un grand sketch de 14 minutes, dommage à Robert Lamoureux.
Oui, j'avais mis bout à bout, j'ai fait une petite compile des meilleurs moments de Robert Lamoureux, et sur le conseil d'ailleurs de Pierre Palmade, au début je disais, je vais vous faire un truc à 45 ans,
oui.
Et il m'a dit, mais ne fais jamais ça, fais-le. Et dealer après que ça a 45 ans.
Et ben, je m'y suis laissé prendre parce que j'écoutais, je me dis tiens, ouais, je connaissais pas celui-là.
Et donc, mais bien sûr.
Tout d'un coup, c'est l'amoureux.
Quand je parle de l'ellipse, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, le rythme, on est passé de Fernand Reynaud, qui sait, c'est le plombier, pendant 7 minutes, et la chute, c'est qui sait, c'est le plombier, à lui, qui disait, moi, j'ai vu papa sauter en vacances du plongeur de 10 mètres. On pensait pas que le vieux aurait le courage. Lui non plus, d'ailleurs. Il a glissé sur une savonnette, hein, sur le ventre. Qu'il est arrivé, pas le sien, hein. Il y avait un gars qui faisait la planche en dessous. 8 jours au fond, ils sont restés. Ça va qu'il y avait pas d'eau, sinon ils étaient trempés. Tu vois la vitesse.
C'est ce qu'on appelle le gag à tiroir, c'est
ça? Exactement. C'est l'ellipse, la vitesse, et tu es contraint de fabriquer des images. Et lui, il te raconte. Et j'ai vu papa, moi, papa, il a graissé les serrures à la maison. Et lui, il plaisante pas, hein. Il met 2 litres d'huile par serrure. Donc ça fait 1,5 litre dans la serrure et 1,5 litre par terre. Mais c'est fou le temps qu'on gagne à la maison. Hein. Moi, j'ai vu papa traverser le salon sur un pied, avec un plat de lentilles. Bon, le plat de lentilles, il tenait à l'envers depuis la cuisine, hein, mais tu vois, c'est fou. Et donc, voilà, il te propose un scénario et toi, tu es obligé de fabriquer les images.
Il est venu d'ailleurs assister à plusieurs de vos spectacles, oui, oui. Et notamment à cet hommage.
Oui, bien sûr.
Qui a dû le toucher, j'imagine.
Et il m'a dit, tu es le plus bel hommage de toute ma carrière. Et je vais te confier un secret, Benoît, puisqu'on finit par sympathiser. Et donc, un jour, j'ai dit, mais comment se fait-il, toi qui as écrit... t'as mis tout le monde d'accord pendant 10 ans, seul en scène, une chanson, un petit poème et un sketch. Toi qui as écrit 16 pièces qui se sont toutes jouées plus de 1000 fois.
Des grandes comédies, hein, oui, oui.
Qui se sont toutes jouées plus de 1000 fois. Qui dit mieux? Qui dit mieux que Robert Meu, il a fait 3 films qui ont fait un carnage, les 7e compagnie. Comment est-ce qu'on ne t'a jamais redonné une récompense? Il m'a dit, si... Un jour, on me l'a proposé, donc un César d'honneur, tu vois, et il dit, tu sais ce que je lui ai répondu? Je dis, non, vas-y. Il dit, je leur ai dit, si vous me mettez maintenant dans la position de dire merci à tout le métier, ce jour n'est pas arrivé encore. C'est pas maintenant que je vais le faire.
Quand vous écriviez vos premiers sketchs à Paris, bon, on sait que ça n'a pas très bien marché avec Bouvard, mais après au Point Virgule, puis que vous les avez joués, vous pensiez de temps en temps à des modèles comme justement les sketchs de Robert Lamoureux.
Bien ouais, sûr, ouais. D'ailleurs, moi, mes sketchs sont montés aussi comme ça. Il faut ouais, surprendre.
Voilà.
Et donc,
c'est ça, l'idée.
Oui, l'idée, c'est de surprendre. Ouais. Toi, Robert Lamoureux était le génie de ça.
Vous avez cité Palmade, c'était avec Baffy, un compagnon de ses années de galère,
oui,
on
oui,
peut
oui,
dire,
oui,
des grand... débuts parisiens. Hein.
Ouais, voilà. Non, lui, Pierre, il a jamais connu...
Il était déjà lancé.
Bah, c'est-à-dire, il a été lancé avant d'être lancé, lui. C'est-à-dire, les portes s'ouvraient devant lui, il était encore à 10 mètres des trucs, et les portes déjà s'ouvraient. Petit génie de 18 ans, qui arrive et qui bluffe tout le monde, qui arrive à rendre... célèbre Muriel Robin en quelques semaines, quoi. Ouais. Il lui a écrit un spectacle, enfin il coécrit avec elle, mais c'est lui qui la propulse au rang de la Muriel Robin qu'on connaît maintenant.
Et vous, c'était plus lent, mais tout d'un coup vous avez été plus, oui, populaire que tout le monde.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire plus lent mais plus fort, peut-être plus puissant, et comme le plaisir n'est pas arrivé tout de suite, tu comprends,
ouais, ouais.
Et que j'ai déjà 30 ans, j'ai pas 20 ans,
ouais.
Donc que je sens cette force monter,
ouais,
en moi, que je constate la puissance que j'ai sur les gens, sur la foule qui vient me voir, le,
ah oui, parce que c'est vraiment la foule, ouais,
qui pousse les murs, ouais. Et tout d'un coup, et comme je suis déjà un adulte, eh ben, j'enfonce le clou. C'est-à-dire, je dis jusqu'où on peut aller. Et je suis allé jusqu'au Stade de France.
Voilà. Mais alors, donc, les étapes, notamment, c'est surtout à partir de 92, 93, hein, là, tout d'un, oui, coup, voilà, ça explose.
Ça vient.
Avec le nouveau Bigard, avec les 3 semaines à l'Olympia et avec des sketchs qui sont, on peut dire, entrés dans l'histoire, comme celui-ci, tiens, que j'adore, par exemple.
Tiens, la valise RTL, hein, voilà une honte, hein, qui dure depuis 25 ans, la valise RTL, hein. C'est dégueulasse, hein, la valise RTL. Hein. RTL, tous les matins, ils appellent quelqu'un pour y expliquer qu'il a paumé 50 000 balles. Ben, c'est dégueulasse, je vais vous la faire, la valise RTL, vous allez mieux comprendre. Alors, c'est Fabrice, tous les matins, il appelle quelqu'un au téléphone. Il y a tout, 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 tout. J'appelle Madame Chambier dans le Vercors. C'est qui, Madame Chambier, deuxième sonnerie. Ah, elle est partie faire pipi, Madame Chambier. Et alors, troisième et dernière sonnerie pour Madame Chambier. Bonjour, Madame Chambier. Madame Chambier, c'est Fabrice de RTL, là. Madame Chambier, est-ce que vous pourriez me donner le montant de la valise RTL? Madame Chambier a fait, oh, quel dommage. J'écoutais à l'instant, c'est 47 601. Et puis j'ai été obligé de m'absenter 5 minutes. Bah oui, bah faut écouter RTL, hein, Madame Chambier. Elle a dit, j'écoutais, je lui c'est 47 000. Bah oui, mais on en a rajouté depuis, Madame Chambier. Oh, c'est dommage, je ne suis pas absenté longtemps. Hein. Juste 5 minutes pour téléphoner à mon mari qui est à l'hôpital, justement, qui a un cancer de l'estomac. Et puis qui est dans la même chambre que mon petit garçon de 8 ans qui en a coupé les deux jambes ce matin. Donc on aurait bien eu besoin de cet argent. Oui, mais vous écoutez pas RTL aussi, Madame Chambier. Il dit, si, je vous dis, j'écoutais. Bon, alors, Madame Chambier, elle a essayé de me donner un chiffre, vous n'êtes pas loin. Madame Chambier a fait, bon, ben, 47 822. Et vous avez dit combien, Madame Chambier? 47 822. Vous avez dit 47 822? Oui, 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 oui. Oh, quel dommage, Madame Chambier! Oh, c'est 47 828! Oh, à 6 francs près! Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Vous avez déjà entendu Fabrice dire, oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. C'est ballot. Alors donc, Madame Chambier, je vous rappelle la somme que vous avez perdue, Madame Chambier. Donc, 47 828 francs. Allez, bonne journée, Madame Chambier. Là.
On dort les uns contre les autres. On vit. On se cache, on se comprend, se console, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres, on court.
Fabienne Thibault dans Starmania. On va revenir à la valise RTL, Jean-Marie Bigard, mais je sais que vous adorez Starmania.
Oui.
Vous y étiez en 79
Absolu, oui. Ouais. Bien sûr, increvable, quoi. C'est-à-dire, ouais. On a l'impression qu'on pourrait chanter toutes les chansons de Starmania jusqu'à
c'est vrai,
la fin
c'est magique,
de
ça
jours.
Vieillit pas. Hein.
Ouais. Ça bouge pas d'un poil, c'est somptueux, les artistes sont magnifiques, et c'était très générationnel, enfin en tout cas, à l'époque...
Vous étiez pas connu du tout, hein, vous avez
non, moi, rien du tout,
public,
zéro,
là,
je pouvais
vraiment,
pas penser un jour que je ferais, étonnez-moi Benoît, tu vois...
Ah ben ça c'est la consécration.
Bah, oui, vrai. C'est le fin du fin, quoi.
Mais alors la valise RTL...
Je peux mourir maintenant, et je comprends pourquoi les gens meurent pas loin après... t'avoir vu, Benoît.
Non, parce que parfois, il y a des invités très, très âgés. Alors malheureusement, oui. Un peu après, parfois, ils nous quittent.
Mais... Oui, bien sûr.
Parce que j'essaie de rendre hommage, comme ça, à des époques lointaines et disparues. Oui. Mais la valise RTL, elle a changé à la suite de ce sketch, qui en fait est assez subversif, hein, ce sketch. Vous démontez bien le système, quand même.
Oui, c'est le système qui est très subversif. Et moi, je viens le dénoncer. J'ai dit, attends, le mec, il a rien demandé à personne. On l'appelle dans sa bagnole. Et on lui explique qu'il a paumé donc 50 000 francs de l'époque, quoi. Il correspondrait à 10 000 ou 15 000 euros de maintenant. Je dénonce en fait ce qui est scandaleux, à la suite de quoi, évidemment, le CSA et toutes les instances ont dit, bah non, on ne peut pas appeler impunément quelqu'un, d'abord... pour préserver son anonymat, pas besoin de faire passer quelqu'un à la radio, de dire son nom, son prénom, et de passer à la radio, on n'a pas le droit de faire ça. Donc maintenant, les gens s'inscrivent sur des registres pour être appelés.
J'ai l'impression qu'ils gagnent plus souvent, d'ailleurs, maintenant. Enfin, je sais pas.
Non, et puis en plus, il n'y a plus rien à gagner.
Donc, oui, les sommes ont baissé aussi. Oui, c'était plus impressionnant.
Oui. Avant, c'était assez impressionnant.
Alors, justement, c'est à peu près les mêmes années, hein, juste après ou juste avant la valise RTL. Vous avez fait ce disque. Ce disque, je voudrais qu'on y revienne un petit peu, puisque c'est votre seul disque, Jean-Marie Bigard, vous l'avez dit. Ça s'appelle Bigard, plus jamais ça. Comment c'est venu, l'idée?
Comme ça, avec un pote, on écrivait des chansons, un peu pour rigoler, pour les chanter entre nous.
Ouais.
Donc, j'avais deux, trois potes qui se démerdaient pas trop mal à la guitare, et on s'amusait, on chantait en boucle les chansons de Brassens, tout ça. Donc, on écoutait beaucoup Renaud aussi.
Ouais.
Et le tango des fachos, notamment là-dedans, ça respire très fort.
Oui.
Le Renaud. Et quand Renaud, il l'a écouté, d'ailleurs, il a dit oui, j'ai vu. Hein. Il y a un moment, j'ai dit tiens, c'est pas loin, quoi. Nous sommes des cousins.
Il y a aussi petits détournements, comme Massé Ferguson, qui est là,
oui, bien sûr.
Davidson, voilà, de Brigitte Bardot.
Oui, bien sûr. Et que j'ai fait la chance de faire écouter à Serge Gainsbourg, pour lui demander l'autorisation de faire un pastiche d'Harley Davidson. Et il m'a dit, oui, ça m'amuse beaucoup, vas-y, fais-le.
Et en studio, vous êtes bien amusé avec les musiciens, justement, à enregistrer, à mixer, à en faire vraiment
on
des chansons.
On a fait ça en 3 semaines, quoi. Donc, tu vois, normalement, on met plutôt 3 ans, mais nous, on a fait ça en 3 semaines, parce qu'une fois que j'ai posé ma voix à plat dessus, bon, ben, c'était bon, quoi. À partir du moment où c'était à peu près juste, ça allait, quoi.
Alors, il y a une chanson que j'adore, bon, elle est devenue presque un peu emblématique d'un certain aspect du style Bigard. Bon, je sais pas, il y a des auditeurs qui adorent, il y en a qui vont peut-être être un peu choqués, mais moi, je trouve ça tellement drôle, le poil de cul sur ma savonnette.
Oui, bien sûr, elle est partie.
C'est venu comment?
Ouais, bah c'est dire, pour avoir été abandonné 2-3 fois, et puis pour être résolument grivois, de dire, elle a tout pris dans la maison, mon cœur, ma vie, mes boîtes de thon. Et m'a laissé comme un adieu, une chose d'elle qui frise un peu, un poil de cul sur ma savonnette.
Voilà, il s'agissait d'être résolument grivois.
Oui, on l'était et ça nous amusait beaucoup. Georges Brassens, c'est pas très très loin non plus tout ça. Hein.
Elle avait mis dans mon blouson des rêves bleus et des frissons. Ma météo, c'était ses yeux quand ils brillaient. On était deux. Elle a tout pris dans la maison. Mon cœur, ma vie, mes boîtes de thon. Et m'a laissé comme un adieu. Une chose d'elle qui frise un peu. Un poil de cul sur ma savonnette. Et ça pollue toute ma planète. L'eau chaude, il reste collé. Alors du doigt, il faut gratter. Puis sous l'ongle, aller chercher le poil de cul sur ma savonnette. Elle avait de la conversation, autant qu'une part de reblochon. Mais elle jouait du casse-noisette, bien mieux qu'Armstrong de la trompette. On faisait dans la salle de bain des trucs sans se servir des mains. Il ne reste de nos baisers qu'un souvenir noir et frisé. Un poil de cul sur ma savonnette. Et ça pollue toute ma planète. L'eau chaude, il reste collé. Alors du doigt, il faut gratter. Puis sous l'ongle, aller chercher le poil de cul sur ma savonnette.
Benoît, merci. Tu sais que tu vas te faire virer à cause de ça.
Je sais,
t'as passé un poil de cul sur la savonnette.
C'est
terrible.
C'est terrible.
Pour ta carrière et tout, tu vois, on va dire, elle avait presque atteint son apogée et tout d'un coup, c'est le drame. Brisé dans son élan, Benoît est obligé de quitter Radio France.
Ouais. On a fait quelques-unes dans le passé quand même qui étaient pas mal. On va voir si ça passe ce coup-ci. Mais c'est l'occasion d'en venir. Bon, sujet, alors, qu'on aborde souvent. moi, j'ai un livre d'un philosophe, là, je connais pas, qui s'appelle Olivier Mongin, qui explique que vraiment, Bigard, vraiment, il flatte les bas instincts, la question de la trivialité, de la vulgarité, etc., qui revient.
Il souvent, a pas baisé depuis longtemps, lui, à mon avis.
Non, mais alors, franchement, alors, j'ajoute que moi, j'ai des amis qui, au contraire, expliquent que vraiment, Bigard, il n'y a pas plus raffiné, il n'y a pas plus second degré, il n'y a pas plus provoquant, il n'y a pas plus rabelaisien, y compris des gens très sophistiqués. Il y a ces deux regards complètement divergents.
Merci d'avoir cité Rabelais, parce que voilà. C'est vrai, Marivaux, Rabelais, c'était
oui, la part de provocation.
Des... Oui, mais il y avait une très, très grosse, c'est très, très grivois,
c'est
Marivaux.
Vrai.
Et j'adore l'histoire, moi, et... Quand on plonge un peu dans le XVIe siècle, on s'aperçoit que les nobles et tous les gens qui étaient très bien habillés s'envoyaient des courriers terrifiants, d'une vulgarité absolument inouïe. Et donc, je me sens pas tellement dépaysé. Encore une fois, nous sommes le pays de la grivoiserie. Comment est-ce que je ne serais pas un héritier de... Pourquoi il y a des quarts de Chinois et de Japonais devant le Moulin Rouge? Ben, c'est à cause de ce début de siècle où les filles... osait, mais à ce point, lever la jambe que le French Cancan permettait aux bourgeois tout rouges au premier rang de venir voir s'il y avait pas, ils voyaient pas une touffe de poils, puisque les pantis étaient fendus, puisque les femmes pouvaient faire pipi sous leur grande robe debout. Et donc on venait voir là, et d'ailleurs le policier de l'époque passait, c'est Roger Planchon qui m'a raconté ça. Il disait, c'est un scandale, vous devez mettre une épingle. Et quand il venait et qu'on voyait quand même quelque chose, la danseuse, piteusement, elle disait, excusez-moi, monsieur le commissaire, mais c'est parce que mon épingle, elle a sauté. C'est pour ça. Alors qu'on ne venait que pour ça. Et donc, je suis dans la lignée de tout ça, sans être ni plus ni moins qu'un bon... franchouillard du début du siècle dernier.
Mais est-ce que la façon dont certains sont choqués ou méprisants pour ce genre d'humour ne vous pousse pas parfois à en faire encore plus?
Oh,
il y a une part de provocation,
pas,
non?
Ouais, j'ai pas tellement besoin. Mais j'étais dans une famille où mon père, mon grand-père, était assez grivois. Écoute, dis-moi si c'est pas de la poésie. Mon grand-père, quand il voyait une fille qui avait des belles jambes, il nous disait à nous, celle-là, elle a une belle fourche à faner les couilles. Tu vois, tu vois l'image, paysanne, tu vois, ou alors on disait couramment d'une fille qui couchait facilement, on disait, oh bah elle tient mieux sur son dos qu'une bique sur ses cornes. Donc, ils étaient grivois, mon père adorait ça aussi, et puis moi, dans la lignée, évidemment, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein.
Donc ça vient tout seul, c'est naturel, c'est spontané. C'est...
Mais sûrement pas d'en rajouter. Mais
en même temps, il vous agace, vos détracteurs, parfois, parce qu'il y a quelques sketchs, notamment dans le Robert Lamoureux, où vous... Bon, ça vous énerve quand même que des gens vous regardent avec cette espèce de mépris quand ils ne sont que des critiques, effectivement, un petit peu de second ordre, souvent.
Oui, très souvent, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais rien fait eux-mêmes, et donc, par dépit, ils sont devenus critiques.
Mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez bien qu'on vous aime.
Oui, bah moi, j'adore qu'on m'aime, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, Marc Esposito m'a envoyé un jour un message tellement joli, je l'ai toujours gardé sur mon téléphone, où il parle de moi, il dit « Bigard est certainement l'artiste qui fait le plus grand écart entre l'amour du public et la détestation des critiques de l'intelligentsia ». Je leur dirais à eux, moi qui ai fait des thérapies très poussées, notamment 5 ans de dynamique émotionnelle de groupe, celle qui te résout tous tes problèmes, tu y apprends, par exemple, dans ce genre d'endroit, qu'on ne peut pas admirer quelqu'un sans en posséder toutes ses qualités. C'est-à-dire, on le sent comme un frère. On se dit oui à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il joue. Parce qu'on sent qu'on est ça, nous aussi. On peut pas admirer quelqu'un sans en posséder toutes ses qualités, même très loin dans son cœur. Mais le revers de la médaille, on ne peut pas détester quelqu'un sans en avoir tous ses défauts. Avoir une peur incommensurable d'avoir les défauts de cette personne. C'est la raison pour laquelle on se sert de la détestation pour s'en éloigner.
Ouais.
Sinon, on n'aurait pas besoin de détester. Si jamais les gens trouvaient que j'étais pitoyablement vulgaire, ils auraient éventuellement de la compassion, de la peine pour moi. On dirait, oh, le pauvre garçon, tu te rends compte, il se roule tout seul dans la merde. Mais l'idée que ça plaise, que les gens viennent, que le passage direct du cœur au cœur des gens se fasse sans encombre. Ça, ça exaspère les intellectuels.
Alors, on va montrer maintenant alors une toute autre face de Jean-Marie Bigard. Alors, je pense qu'on va expliquer après. Je vais juste dire ce que c'est d'abord. On va écouter un petit extrait. On est assez loin de la grivoiserie là, mais c'est un grand auteur français qui s'appelle Jean Giraudoux. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Ondine, qui a été créée en 1939. Et là, c'est la reprise en 1974 par Jean-Luc Boutet et Isabelle Adjani. On écoute juste la fin de la dernière scène. Et puis vous allez nous en parler après, Jean-Marie Bigard.
Oui. Ondine chérie. Le bonheur de me tenir éveillé toute la nuit.
Il faudra bien d'ailleurs que j'aille le voir, mon cheval, parce que je lui dis tout.
Ah oui, très bien.
Mais que fais-tu ?
Pour cette nuit, je fais ma ceinture moi-même. Ça ne te gêne pas que je passe cette chaîne autour de nous ?
Non, chérie.
Et ce filet ?
Non, chérie.
Tu le relèveras dès que je dormirai. Oh, oh, je baille déjà. Bonne nuit, mon amour.
Entendu. Mais jamais homme et femme n'ont été liés d'aussi près en ce monde.
Ah oui. Eh bien, maintenant, toi, dors.
Ah bah je disais que là, ça se passait pas en dessous de la ceinture, mais en fait, oui, justement, il y a aussi
si,
une ceinture.
Un petit peu, oui.
Mais alors, mais voilà, Ondine de Jean Giraudoux, ouais. Jean-Marie Bigard.
Quel texte incroyable. Quand il lui dit, le roi des Andins, il dit, mais il est à fin de vie, c'est toi qui l'as tué. Et il dit, non, j'entends les cloches, son mariage. Il me dit, le mariage a glissé de lui tout entier comme l'anneau d'un doigt trop maigre. Ouais. Il a fait ce que font les anneaux, il a roulé sous un lit. Comment tu veux écrire ? C'est une thérapie par la terre entière, Ondine. C'est une petite Ondine, elle ne mourra jamais, elle aura toujours 15 ans. Et le chevalier, ce gros bêta de chevalier, il tombe amoureux, mais c'est trop fort pour lui. L'habit est trop lourd.
Ouais.
Le roi des Ondins, d'ailleurs, lui dit « Les chevaliers ne trébuchent pas sur les dragons. Ils trébuchent sur une brindille d'osier, une innocence, une transparence, une fille qui aime. »
Je vous recommande aussi, d'ailleurs, si vous connaissez peut-être, mais le monologue final du créateur de la pièce, Louis Jouvet, qui a enregistré ça en disque, c'est assez extraordinaire,
oui.
Toujours dans Ondine. Alors, pourquoi Ondine, cette version de 1974, mise en scène par Raymond Rouleau, Jean-Marie?
Extraordinaire.
Vous l'avez vu?
De 1900, tu as dit 74,
ouais.
Donc je suis de 54, j'ai 17 ans, j'ai l'âge d'Isabelle Adjani, qui a 17 ans, qui est la révélation. La bombe atomique de la comédie française, la perle,
ouais.
Tu vois, et j'ai 41 de fièvre, mon sport c'est le handball, j'ai joué jusqu'à 30 ans, c'est la raison pour laquelle je suis pas venu à Paris, d'ailleurs j'ai joué au handball, et je tombe sur cette pièce, j'ai pas le droit d'aller jouer, il devait y avoir trois chaînes à l'époque,
à la télé,
et je tombe sur cette pièce qui me rentre dans le cœur, je me dis je suis cette pièce, quoi. Ce que je veux faire, c'est aller sur des planches. Je veux vivre ça. Je veux être avec une troupe de théâtre.
Ah oui.
Et je me dis, voilà, s'il y a une fée quelque part, que je devienne un jour un artiste.
C'est là que ça s'est décidé.
C'est un déclenchement. C'est-à-dire avant, strictement rien. Si ce n'est de parader un peu devant tout le monde. J'aime bien qu'on me voit et qu'on m'entende. Bon, j'ai la voix pour ça. Je sens bien que j'ai un petit truc à faire. Mais là, ce jour-là, je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Le grand Magic Circus
de Savary
passe à Troyes. C'est pas très très éloigné tout ça. Pareil, j'arrive là-bas et j'ai envie de monter dans le bus. J'ai pas envie de les laisser partir.
Ah oui, ça aurait pu marcher avec Savary.
Ouais, je reste là. Je me dis, ils vont peut-être m'emmener.
C'est pourtant pas très loin de Paris, Troyes, mais à l'époque c'était peut-être encore plus loin qu'aujourd'hui.
Oui.
Ça a changé la notion des distances.
Sans aucun doute.
C'est peut-être pour ça aussi, donc Jean-Marie Bigard, que dès que finalement vous avez conquis l'immense popularité qui est la vôtre et que vous avez pu faire ce que vous vouliez, au fond, vous êtes retourné assez régulièrement, à plusieurs reprises en tout cas, vers le théâtre.
Oui.
Et notamment avec ce bourgeois gentilhomme que vous évoquiez tout à l'heure avec Alain Saxe.
Les choses arrivent sur moi. Je te dis, c'est une bénédiction. Chaque jour, à son lot de surprises, de bonnes surprises, je n'attends rien que l'inattendu. Ce qu'on devrait d'ailleurs toujours faire. On ne devrait rien attendre d'autre que l'inattendu.
Ouais.
Tout ce qui est prévu ou prévisible, souvent assez décevant, pour tout dire. Donc, s'attendre, ouvrir ses yeux, ses oreilles, de dire... Qu'est-ce qui va m'arriver d'inattendu? Comment je vais recevoir
c'est bien, ça,
le cadeau? Eh bien, moi, c'est Alain Saxe qui vient, il me dit, voilà, je monte le bourgeois gentilhomme, j'aimerais que tu joues. Et j'ai dit, tu voudrais que je joue quoi? Il me dit, le bourgeois. J'ai dit, c'est une blague. 635 lignes de texte. D'une prose inapprenable de Monsieur Poquelin.
Ouais.
Après Marivaux, il n'y a pas de prose plus inapprenable que Molière. T'es sur scène tout le temps, tu tapes le prof de musique, de philo, tu t'envoies tous les comédiens. C'est comme si tu faisais un casting, quoi. Et me voilà parti. Pareil, comme Roger Blanchot, il m'a dit, c'est toi le bourgeois gentilhomme. Il a pris des gamins du 9-3 pour faire des danses hip-hop sur la musique de Lully à la note. Et qui danse et qui roule par terre et tout.
Très grand succès. Je cite encore Planchon qui décidément vous adore. Il vous qualifie de personnage à la Tabarin, ce clown magnifique du XVIIe siècle, ce qui nous renvoie au siècle de Molière, justement. Oui. Le théâtre, Jean-Marie Bigard.
Molière, c'est ni plus ni moins que le café-théâtre de maintenant. Hein. C'était,
bien sûr.
Pour l'époque, ça valait pas les grands...
Les grands Racine ou Corneille.
Oui, bien sûr.
Autre auteur, alors que j'adore, je dois dire... qui vous a peut-être un peu moins porté chance, mais ça m'avait quand même fait plaisir que vous le montiez, parce que je trouve qu'on le joue pas assez, c'était Marcel Aimé.
Oui, qui portait pas très bien son nom, puisque la pièce, en l'occurrence...
Ça n'a jamais marché, vous dites. Hein,
non,
c'est ça,
ça n'a jamais marché à sa création. Ça n'a pas marché avec le grand, grandissime Jean-Pierre Mariel, t'imagines, dans le conte Hector de Clérambard. Mariel qui dit « Araignée, petite sœur ». C'était somptueux, tu vois. Ça n'a pas trouvé non plus son public. Et moi, je suis passé à la gamelle, comme
vous
tout le monde.
Vous aimez Marcel Aimé, c'est vous qui avez choisi de faire cette pièce, comment?
Non. C'est Nicolas Briançon qui est venu me voir. Il m'a dit « Voilà, je ne veux rien d'autre de toi que tu acceptes de faire une lecture ». Les comédiens sont arrivés, fameux d'ailleurs, hein, pour la plupart. Et nous voilà partis avec une lecture approximative, tu vois, autour de la table, chez moi, rue de Belleville, et on se dépouille de rire. On écoute Marcel Aimé, et puis en plus, moi, je crois que j'ai eu la pire période, parce que franchement, jouer l'histoire d'un vieux comte ruiné qui met en esclavage sa famille sur des métiers à tisser et qui finit par tout revendre pour emmener tout le monde dans une carriole pour aller prêcher la bonne parole après avoir été visité par Saint François d'Assise.
Il veut même plus
le
tuer
faire.
Les insectes. Hein,
c'est... Oui. Et tout d'un coup, le mec, la pièce démarre, il dit « J'ai tué un chat, on le mangera demain soir ». Et tout d'un coup, il est offusqué qu'on ait tué une araignée sous son toit. Donc c'est absolument magnifique, c'est truculent à jouer. Mais le public n'a pas voulu venir voir cette pièce qui était quand même un peu désespérante, quoi.
Alors,
ce qui est drôle, c'est qu'on a capté, je finis juste pour dire que Dieu existe, parce que on a capté le jour de la Saint-François d'Assise, sans le vouloir.
Bon, j'espère d'abord que Clérambard finira par trouver sa chance.
Son public,
On va écouter une petite chanson, tiens, justement, de Marcel Aimé, tirée de la comédie musicale Patron qu'il avait faite avec Guy Béard.
Le long du quai Malaquais, Malaquais, un dragon déambulait, ambulait. Rencontrant un avocat, il voit qu'il a les pieds plats, n'ayant rien à se dire du tout, rien de rien. Chacun passe à son chemin, ah quelle journée, ah quelle journée. La destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien. Rien, rien, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien, rien. Une dame toute nue, de sa chambre est descendue, descendue. Madame, lui dit l'avocat, vraiment je ne vous comprends pas, je vous trouve bien étourdie, étourdie. de sortir sans parapluie. Ah, quelle journée, ah, quelle journée. La destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien. Rien, rien, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien. Rien, monsieur lui répondit-elle, pondit-elle. Je vous trouve bien peu de cervelle, peu de cervelle. Regardez de plus près mon nu, y'a rien à y mettre de plus. Assez parlé à présent, je cours m'acheter une paire de gants. Ah, quelle journée, ah, quelle journée. La destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien. Rien, rien, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien. Rien. Elle s'engage sur la chaussée, un flic surgit courroucé, courroucé, criant « y'a de quoi devenir fou », ma femme traverse hors des clous, elle dit « arrête-toi de crier, toi de crier, tu vas nous faire remarquer, ah quelle journée, ah quelle journée, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien, 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 la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien ». Rien, la dame faisant marche arrière, rencontra le militaire, militaire, qui toujours déambulait le long du quai Malaquais, n'ayant rien à se dire du tout, rien de rien. Chacun passe à son chemin, ah quelle journée, ah quelle journée, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien, 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 on n'en sait rien, 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 on n'en sait rien, rien.
Voilà, alors c'est un mec qui rentre toujours bourré à la maison, tu vois, et un jour sa femme, elle en a marre, et sa femme elle est très très costaud, hein, tu vois, elle a des bras comme ses cuisses à lui, tu vois, et elle lui dit, écoute, c'est simple, tu rentres encore un coup bourré, encore une fois, tu vois, le gourdin qu'elle a, je le prends, et je te fracasse la tête. Et le lendemain, elle dit, bon, tu vas faire quoi aujourd'hui? Ben, il dit, je vais aller aux escargots. Il dit, je te préviens, si à 16 heures, t'es pas rentré à la maison... Tu vois le gourdin, tu vois, je casse son gourdin. Bon, il part, il remplit son sac d'escargots, et il est 4 heures moins le quart, et il a sa maison à vue, là, qui est là-bas, tu vois. Puis, du bistrot à côté, il dit ah, Mario, viens boire un verre. Il se dit il est moins le quart, j'ai un quart d'heure, putain, il rentre dans le bistrot. 18 heures, 20 heures, 22 heures, minuit, 2 heures du matin, ivre mort. Reprend son gros sac d'escargots et se met sur l'épaule comme ça, et titubant, va vers la maison. Puis pour rentrer dans sa maison, il y a un petit perron comme ça. Hein. Et là, il bute dans la première marche du perron et avec tout le sac d'escargots, il se renverse sur le perron. Sa femme, elle surgit avec le gourdin, tu vois, à la main comme ça, lui. Il regarde sa femme, il regarde les escargots, il fait « Voilà, on est arrivé
!» Jean-Marie Bigard, une blague tirée d'une des innombrables émissions de télé ou de radio où vous venez faire des blagues. J'ai l'impression que c'est un peu une deuxième carrière.
Écoute,
en plus
suis,
de la première ces dernières années.
Je suis devenu le raconteur officiel de RTL,
c'est
une radio concurrente, et Laurent Ruquier me fait raconter 15 blagues chaque fois que je vais aux grosses têtes. Les gens adorent ça, et je m'apprête d'ailleurs, c'est un scoop, à faire une battle de blagues avec le meilleur raconteur belge de blagues, qui s'appelle Renaud Ruten.
Ah ouais?
Et qui est un excellent raconteur de blagues. On s'est envoyé chacun une galette pour savoir quel tronc commun on avait, parce que les blagues sont souvent connues de tous. Et on envisage de jouer à Liège, ou peut-être au Palais des Congrès à Liège, lui et moi, et on va faire un carnage. Les gens vont venir écouter une heure et demie de blagues, et on va s'amuser à se les repasser, à se moquer l'un de l'autre, à faire une petite battle.
Mais alors, contrairement à vos sketchs, les blagues, c'est jamais écrit par
non,
vous.
C'est
toujours des blagues qui courent, que vous apprenez.
Les blagues, dans mon livre « Sans ville, sans blague », ouais, j'explique que la blague, elle ne meurt jamais.
C'est ça.
C'est-à-dire, les blagues sont ancestrales. Le compteur améliore à chaque fois la blague, elle devient tout d'un coup une bombe atomique.
Ouais, c'est ça,
et puis
ouais,
la blague qui servait pour le général de Gaulle, elle sert pour un autre mec qui est mort, tu vois, ou qui va mourir, ou un truc comme ça. Donc elles sont rafraîchies, elles sont révisées, et elles fonctionnent toujours. On ne sait pas d'où elles viennent, mais ce sont des vraies aventures. C'est comme un livre, comme un film, c'est un début, un milieu, une fin. Et quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la personne qui est en face de toi que de le faire rire.
Et vous préférez presque aujourd'hui faire des blagues à la radio que faire des grands spectacles devant des grandes foules.
Disons, je m'en amuse, m'en amuse beaucoup, mais c'est vrai, j'ai fait un DVD qui s'appelle 100 villes sans blagues. Je me suis amusé à raconter 4 blagues différentes tous les soirs devant un public différent. Et j'en ai fait un DVD qui a très très bien marché.
Alors une autre question que je voulais aborder avant qu'on se quitte, Jean-Marie Bigard, c'est la question des femmes. En ce moment, c'est, en plus, on est au cœur de l'actualité.
Bien sûr, oui.
J'ai lu avec, je dois dire, un certain étonnement d'abord, et puis finalement, que votre public était en fait très largement féminin.
Oui, oui, c'est-à-dire j'ai bien 60% de femmes.
Ah, carrément,
qui
plus que d'hommes.
Oui, parce que comme elles sont plus intelligentes que nous, Benoît, pardon de te faire de la peine, mais elles voient mon cœur, elles ne se sentent pas visées. Pour elles, le lâcher de salope, c'est pas, elles ne sont pas concernées. Pour moi, le lâcher de salope, c'est que j'écris ce sketch pour montrer clairement la pitoyabilité du chasseur quand on remplace le gibier par le beau sexe. Ouais. C'est exactement ça. Il est pitoyable. Nous sommes pitoyables. Et qu'il est là, tu vois, il se balade dans la boîte, il est en chasse, c'est tout ce que je déteste, moi qui aime les femmes.
Ouais.
Et donc, j'ai voulu mettre ça en avant.
Et alors,
les femmes m'adorent. Alors, depuis que je fais Nous les femmes, mon dernier spectacle s'appelle Nous les femmes, et je fais la première partie de mon propre spectacle en femme pendant 35 minutes, et là c'est un pur régal. Je change de camp et avec la truculence qu'on me connaît, je me mets à déchiqueter les hommes, y compris moi. Tout le monde en prend plein la gueule, moi le premier.
Et alors le mouvement balance ton port, tout ça, vous en pensez quoi?
Évidemment, oui, c'est bien, il fallait le faire, on y est passé. Et il faut aussi
il faut se rapprocher maintenant.
Non, mais il faut qu'on continue aussi à rigoler, parce que on n'empêchera jamais la nature de se prononcer à ce sujet. L'homme est un prédateur, effectivement. Pourquoi Dieu a fait l'homme un petit peu plus balèze que la femme? C'est pour qu'il puisse l'attraper. La femme aussi, elle adore, elle se fait belle parce qu'elle adore aussi se faire draguer. Après, le lourdingue, ça peut éventuellement encore passer, le mec, il est un peu lourdingue. Celui qui utilise sa profession pour faire un abus de pouvoir sur une femme, c'est absolument scandaleux.
Ouais.
Donc celui-là, faut le passer à la moulinette, bien sûr.
Le spectacle, Nous les femmes, il est en tournée.
Oui, jusqu'à fin juin,
voilà.
J'aurai joué ce spectacle, pour te dire, je bats un record encore.
Ouais, ouais.
Je l'aurai joué plus de 440 fois. Ce qui ne m'est jamais arrivé dans aucun de mes spectacles. Et c'est sûrement le spectacle le plus puissant de toute ma carrière que j'ai écrit, donc, à 60 ans. Tu vois, les Romains disaient, on va pas au Sénat avant 60 ans parce que sinon on est encore un gamin. Et ben, c'est vrai.
Allez, gars! C'est parti, la chanson, elle fait la-la, de toute façon. J'suis pas chanteur, j'suis pas compositeur, j'sais pas danser, je sais pas bien bouger, mais quand j'entends ce genre de décibels, je prends mon élan, je me dis que la vie est belle. En avançant, je balance les bras, je bouge le haut et je remue le bas. Je bouge le bas et je remue le haut, et je regarde toujours vers la sono. C'est pour moi que je joue la musique, je comprends tout à l'électronique. C'est très fort, je suis obligé de danser, de danser sans m'arrêter. J'ai des frissons entre les deux oreilles et les roustons exactement pareil. Je vous explique pas que deux et un font trois. Moi je fais la la, comme ça je m'emmerde pas. La la la. Sous les néons, on prend le rythme, on retire son blouson, on se remue, surtout on s'en fait pas, on bouge son cul, on chante la la la. C'est pour nous que joue la musique, c'est très fort, c'est métronomique.
malgré nous on est obligé de danser, de danser, de danser sans s'arrêter et on oublie les soucis de la vie.
Jean-Marie Bigard, en plus, m'a fait l'analyse du morceau pendant qu'on l'écoutait, donc c'est très bien, il y a trois thèmes.
Il y a absolument trois thèmes musicaux. Là, tu es définitivement viré, Benoît, hein, je l'annonce.
France Musique, c'est la fin. Ça, c'est
le fond. Poil de cul et la la la, qu'on chante notamment dans tous les mariages, et on se met à chanter ça. Pourquoi ? Eh bien, toi, c'est un peu comme les histoires. En réalité, je suis allé à la racine du truc. Je vais en Italie en vacances avec ma femme dans une discothèque. Il passe toutes les trois chansons, il passe ça. Tout le monde danse comme des fous sur ce truc. C'est chanté par China Girl. Donc je ne comprends pas un seul mot de japonais, bien évidemment. Mais tout le monde est accro à cette musique. C'est un tube énorme. Ils en vendent 5 millions en Italie. Je reviens en France. Je vais voir mon ami Jean-Jacques Goldman qui m'a toujours dit, mais si tu veux faire un tube, bah, tu vas en Italie.
Ah oui.
Il y a comme une espèce de mur, ils ont des plus belles mélodies et tout ça. Et je lui fais écouter, il dit, putain, c'est vraiment puissant. Il y a un son quand même d'enfer. Michael Jones est là, et je lui dis, Michael, tu veux pas m'aider à faire ça, je mets des paroles françaises. En 15 jours, hein. Je joue à Toulouse, il me dit, il y a un studio à Toulouse, viens, on l'enregistre ce soir. 2h du matin, je suis dans le studio de Toulouse. À 4h du matin, on sort, j'ai fait les paroles de la musique. On monte 15e dans le top 50.
Voilà, la carrière de chanteur,
finalement. On en
vend
600 000. Tu vois, absolument incroyable. Et tout simplement, c'est un Japonais qui a repris trois thèmes musicaux qui sont dans la mémoire populaire. Il les a mis bout à bout. Et il a fait chanter des voix très aiguës, China Girl, qui sont des très très bonnes chanteuses, et il a fait un carnage mondial avec ça.
Donc, vous voyez que vous êtes chanteur, Jean-Marie Bigard, non. Finalement.
Oh, oui, hein. Oui, d'accord, si tu veux.
ça va peut-être pas s'arrêter là, en tout cas, on espère, parce que, bah voilà, vous avez fêté effectivement les 60 ans en 2014, avec 150 salles, hein.
Oui, dans toute la France.
Dans toute la France.
J'ai fait ça au Grand Rex, à Paris.
Il y a eu l'accident en 2016, vous êtes tombé malade sur scène. Non,
je le plancher me saute au visage, je suis épuisé, j'ai fait un rejet d'une greffe dentaire, septicémie, AVC, endiocardite, je suis laissé pour mort à l'hôpital américain, mes amis que je connais là-bas, parce que je vais là-bas parce que je connais tout le monde, les grands professeurs, le matin disaient, est-ce que Bigard est encore là? Ouais. Pendant 6 jours et 6 nuits, entre la vie et la mort. J'ai arrêté de fumer net, tu vois, comme quoi que tu vas regarder la faucheuse de près.
Ouais, tu te dis,
ben non, quoi, je fumais, fuck la clope. En conscience, sans aucun effort, j'ai arrêté de fumer, je ne fumerai plus jamais de ma vie. Et voilà, maintenant je m'occupe de mon vieux corps de 63 ans.
Vous pratiquez toujours la méditation ?
Et bien sûr, méditation, ouais. Et là j'ai fait un stage, une retraite chinoise.
Ouais.
Je te garantis, je suis encore dedans, 40
ouais.
jours,
ah ouais.
Pas de vin... que des aliments que tu prends presque comme des médicaments puisqu'ils ne viennent pas contrarier ton corps pour qu'ils te soignent de tous tes maladies. J'ai trouvé ça absolument génial et je suis encore dedans pendant une quinzaine de jours et je sens que j'ai rajeuni, que mon corps est comme s'il avait 20 ans de moins aujourd'hui.
Il y a eu quand même un gros changement, hein, c'est que vous avez quitté le quartier Belleville auquel on vous associait.
Oui.
Pour un quartier très chic, près du Bon Marché, à Paris,
ouais,
là. Hein.
Oui, oui, c'est vie, plus hein. chic, c'est bien, c'est pas mal non plus, les riches. Les riches, c'est bien, c'est poli, ça dit bien bonjour, tout ça, je me plais bien.
Bon, bah, merci Jean-Marie Bigard.
Benoît, je ne te dis pas la prochaine fois, tu vas m'envoyer ta lettre de licenciement.
Oui, après cette émission, c'est
probable.
Et
puis, je voudrais savoir comment tu seras indemnisé, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, Benoît.
Merci beaucoup Jean-Marie. On se quitte avec Abba.
Ah, génial.
Hein? The winner takes it all.
Ah ouais, takes it all, ouais.
Bon.
Ah oui, le gagnant ramasse tout.
À bientôt, Jean-Marie.
À bientôt. Au revoir. Merci, Benoît.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense,
Winner Takes It All, c'est le groupe ABBA et c'est un choix de mon invité ce matin, Jean-Marie Bigard. Vous trouverez toutes ses actualités sur le site bigard.com et notamment cette tournée du spectacle Nous les Femmes, tout prochainement encore à Saint-Omer le 26, à Roubaix le 27, à Amiens le 28, etc. etc. La tournée de Jean-Marie Bigard donc sur son site officiel.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous allons maintenant revenir aux fondamentaux d'Étonnez-moi Benoît avec la musique symphonique légère comme chaque mois en compagnie de Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Heureux de vous retrouver avec vos disques rares qui sont là, étalés sur la table, des vrais vinyles.
Des vrais
comme
de vrais.
On les aime. Et un programme consacré donc aujourd'hui à quelques tubes de la chanson française revisités par des orchestres de musique légère américains. J'ai bien compris ?
C'est exactement ça. Voilà. C'est pour attester des bonnes relations musicales entre les États-Unis et la France. Et quelques orchestres américains ont interprété des musiques françaises incontournables, comme par exemple le fameux cancan d'Offenbach, revu et corrigé par l'orchestre de percussion de Dick Shorey, qui fut lui-même percussionniste du Chicago Symphony Orchestra.
Thank you.
coup de chapeau à notre ami Jean-Christophe Keck, le oui. grand offenbachien de l'émission, qui écoute sûrement cette version du cancan d'Offenbach par Dick Shorey. Percussion Pops Orchestra. Voilà,
exactement. Que
vous ne connaissez pas, c'est un enregistrement de 1962, Serge Laïc.
Alors, nous poursuivons notre voyage musical outre-Atlantique avec le grand orchestre de Hugo Winterhalter et sa version instrumentale vraiment superbement arrangée de la célébrissime chanson Mademoiselle de Paris, succès mondial pour Jacqueline François. Alors, composée par Paul Durand, qui était déjà connu pour la musique de Seul ce soir, le succès de Léo Marjane, eh bien, d'innombrables versions de Mademoiselle de Paris seront enregistré de par le monde, de Colette Renard à Bing Crosby, en passant par l'autre crooner Andy Williams, sans oublier les orchestres de Michel Legrand, Franck Bourcel, Paul Moria et Hugo Winterhalter.
Mademoiselle de Paris, le grand succès avec Jacqueline François, ici donc revisité par l'orchestre d'Hugo Winterhalter, orchestration à l'américaine.
Absolument.
Vision de la France, comme ça. Ouais. On voit sur la pochette de votre beau 33 tours, Serge Laïc, avec des petites vues de la Côte d'Azur et d'un village français typique. C'était en 1962.
Alors, on va s'arrêter un instant sur C'est si bon, le succès d'Henri Betti pour la musique, d'André Ornez pour les paroles. Eh bien, cette chanson, vous le savez, Benoît, naissait il y a 70 ans. Et c'était en début d'année 1948. Donc, François Betti, un des enfants d'Henri Betti, nous raconte avec détail la genèse de C'est si bon. Pardonnez-nous la qualité moyenne de l'enregistrement téléphonique.
Alors voilà, tout a commencé à Nice, sur l'avenue Jean-Médecin. Un beau jour de juillet 1947, où sont venues à l'esprit les trois fameuses petites notes musicales de la chanson, alors qu'il flânait, donc il regardait la vitrine d'une boutique de lingerie féminine. Alors vous voyez, c'est authentique, donc comme quoi les inspirations sont nombreuses. Donc il rentre chez lui, termine la chanson. Ensuite il prend rendez-vous avec André Ornez, fameux parolier, pour lui proposer donc d'écrire les paroles. Quelques jours après, Ornez donc lui propose 10 titres en 3 syllabes donc hein, pour commencer la chanson, et dont le 10e titre est C'est si bon. Alors mon père tout de suite choisit ce 10e titre et dit ah bah oui c'est si bon, c'est super, ça sonne bien et tout ça. Par la suite, la première interprétation a eu lieu le 18 janvier 1950. 1948 par Jean Marco avec l'orchestre de Jacques Lélian, et c'était pour la radio. Parallèlement, il y a eu les Sœurs Étienne qui ont enregistré donc la chanson, et par la suite, peu de temps après, Yves Montand enregistre la chanson avec l'orchestre de Bob Castella, qui je pense d'ailleurs était son pianiste. Et c'est en juin 1950 que Suzy Delair chante la chanson avec l'orchestre d'Aimé Barelli au Casino de Monte-Carlo, où Louis Armstrong passait la soirée. Il écoute la chanson lui plaît, et il enregistre le 26 juin 1950 à New York. La chanson obtient un succès mondial et elle est reprise eh bien, par plusieurs chanteurs internationaux, ainsi qu'au cinéma et à la télévision.
Et cette fois, évidemment, coup de chapeau à ma chère Suzy Delair.
Évidemment.
Merci à François Betty d'avoir rappelé comment elle avait été à l'origine du succès mondial de C'est si bon, ici donc dans la version de The Three Sons, avec l'orchestre de Charles Albertine.
Oui, c'est cela.
Voilà,
oui.
Toujours en 1962.
Oui, j'ai fait que du 62. Ah voilà. Pratiquement, c'est le hasard en fait.
Le hasard. Aujourd'hui, on est en 62 avec Serge Laïc.
Alors, bien sûr, nous aurions pu écouter des versions de La Mer, des versions américaines de La Mer, My Way, Les Feuilles Mortes, etc. Mais pour conclure, eh bien, j'ai choisi le grand succès de Gérard Calvi, Le Bal chez Madame de Mortemouille, musique écrite pour le spectacle des Branquignoles qui s'appelait Jupon Vol et dans lequel Robert Derry avait imaginé une séquence de danseuses qui évoluait dans un salon parisien mondain complètement ridicule. D'ailleurs, Derry avait demandé alors à son complice Gérard Calvi de lui composer l'air le plus bête du monde.
C'est ça l'idée. Hein.
Dès le lendemain, Calvi propose un air sur 4-5 notes répété en permanence. C'était le bal chez Madame de Mortemouille. Gérard Calvi n'avait pas imaginé une seconde que cette musique allait faire le tour du monde. Nous l'écoutons ici sous le titre de Made in France par Joe Fingerscar, célèbre interprète américain de piano ragtime. Thank you.
Le grand Gérard Calvi, le dernier grand maître de la musique légère en France, on peut dire qu'il nous a quittés il y a 2 ans. Merci Serge Laïc de terminer avec le bal de Madame de Mortemouille dans une de ses innombrables versions.
Merci Benoît et à la prochaine fois.
On vous retrouve très bientôt, j'espère.
On parlera de Jean-Claude Pelletier.
Jean-Claude Pelletier, un grand chef d'orchestre de variété, qui est évidemment, on l'a compris, votre spécialité. À bientôt Serge. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Mathieu Tourin et aussi Morgane Danan, réalisation Christine Amado. Et je vous le redis, donc rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui seraient parisiens et qui auraient envie de venir nous voir en direct au Salon de l'Agriculture, où je recevrai notamment Dany Briand, Daniel Collin, Perico Légas pour un Étonnez-moi Benoît spécial agricole. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.